Alors bonjour Monsieur Tavernier, merci de nous accorder quelques minutes à Radio Brume et à moi-même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux films projetés aujourd'hui à Brume dans le cadre du festival Drôle d'endroit pour des rencontres, deux films qui ont plus de 30 ans d'écart et qui sont assez différents finalement l'un de l'autre, donc Quai d'Orsay et Coup de Torchon.
Ben, j'ai choisi un peu Coup de Torchon parce que j'en avais un tout petit peu marre d'entendre des gens à chaque fois commencer tous les interviews de Quai d'Orsay en disant « c'est votre première comédie ». Il y a des tas de moments dans Coup de Torchon où on se marre. Il y a des tas de scènes, même si c'est le fond du film est dramatique et noir, mais il y a des tas de moments de comédie. Donc je trouve, et puis je leur disais d'ailleurs aussi, à ma connaissance, la fille de D'Artagnan, c'est pas les Atrides non plus. C'est pas un truc. Je trouve que c'est terrible d'être interviewé par des gens. On a l'impression qu'ils ont oublié instantanément tous les films que vous avez faits avant. Je veux dire, parce que j'ai des moments de comédie dans un grand nombre de mes films, que La Fête commence a énormément de moments de comédie. Mais alors, Coup de Torchon, je voulais montrer, parce que c'est une comédie aussi qui a, mais un peu comme Quai d'Orsay, qui a des arrière-plans politiques. Il y a un moment où les deux films se croisent. Il y a une séquence de Coup d'Orsay, de Quai d'Orsay qui a été tournée au Sénégal. Où d'ailleurs, j'avais les fils et les frères des techniciens et des électriciens qui étaient dans Coup de Torchon. C'était marrant qu'ils sont venus me voir en me disant « on était sur Coup de Torchon, mon frère », tout ça et tout. Dans la musique de Philippe Sardes, le départ de la musique de la séquence africaine de Quai d'Orsay reprend, cite pendant 4 mesures, 5 mesures, la musique de Coup de Torchon. Donc voilà, c'est un peu le lien entre les deux films. Et puis j'avais envie de montrer Coup de Torchon que j'ai pas présenté depuis un certain temps. Voilà.
Et vous le revoyez, vous l'avez revu fréquemment, vous ?
Non, moi je le j'ai pas revu, mais un jour je sais que celui-là j'ai pas de problème à le revoir. Je pense qu'il tient le coup, qu'il y a des acteurs formidables, qu'il y a un travail, il y a une vision de l'Afrique qui est assez décapante, qui est une Afrique qui est une vision qui m'a été qu'on a travaillé avec Orange en s'inspirant des reportages de Simenon et du voyage au Congo d'André Gide. C'est-à-dire une Afrique où les Blancs ont reconstruit, les colons blancs ont reconstruit autour d'eux le même univers qu'ils avaient quand ils étaient en Europe. C'est-à-dire qu'ils ne s'adaptent pas du tout à la vie africaine, ils ne mangent pas de nourriture africaine, ils mangent des haricots de mouton, ils mangent du canard, et ils sont là, et ils imposent le mode occidental à la population, y compris les films, à la population locale. Donc ça, voilà, ça faisait partie des détails qui étaient très, très intéressants à mettre dans un film.
Alors, à la base, c'est donc un roman. Alors, en français, le titre, c'est
1275 âmes. Le titre américain, c'est 1280 âmes.
Et du coup, ça ne vous a pas posé de problème de transposer aussi cette relation de ségrégation aux États-Unis d'esclavage à l'Afrique.
Ça m'a posé pendant 4-5 ans. 5 ans, j'ai cherché comment le transposer. Et jusqu'à ce que je trouve l'Afrique, j'y arrivais pas. Et puis tout d'un coup, en Afrique, j'ai trouvé les rapports d'humiliation, les rapports de classe, les rapports de racisme. La colonisation française avait son équivalent dans la manière dont on traitait les Noirs dans le sud des États-Unis. Là, je tombais sur quelque chose d'approchant. Je tombais aussi sur un rapport, le même rapport que finalement dans le roman, entre les blancs pauvres, les blancs riches, et puis les noirs, les diverses catégories sociales. Il y avait aussi une chose qui était très très utile et qu'on oublie toujours quand on adapte un roman américain, c'est que les histoires qui se passent aux États-Unis souvent bénéficient d'espaces immenses.
Et ça, vous avez voulu retranscrire aussi ça, avec ces scènes au bord des fleuves.
Oui, mais c'est important aussi pour des trucs très simples. C'est on met du temps à retrouver des cadavres. Alors que quelqu'un qu'on tue en France, on trouve généralement, à moins qu'on l'ait fait, c'est arrivé dans des cas, mais ça demande une autre écriture dramatique, à moins qu'on fasse dissoudre le corps dans la chaux, qu'on l'enterre dans une carrière et tout, c'est généralement les cadavres sont trouvés très vite parce que les distances sont petites. Tandis que là, de la même façon que dans le Texas de l'Ouest ou dans la Géorgie, vous pouvez tuer quelqu'un et peut-être que son corps va être trouvé dans 6 mois, dans 1 an. Et c'est un des ressorts du film. On met beaucoup de temps à trouver le deux corps dedans, mais beaucoup, beaucoup de temps, sans que le personnage principal ait pensé à les cacher. Il les abandonne simplement au fil de l'eau. En France, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous faites tomber un cadavre dans la Seine ou dans le Rhône, ben, vous le trouvez deux heures après. Et là, vous tombez sur un problème d'enquête. Tandis que l'Afrique me donnait tous les éléments, les mêmes éléments en toile de fond et en justification dramatique que ce que contenait le roman.
Et moi, ça m'a fait penser aussi au niveau de l'atmosphère à certaines pièces de Faulkner ou à certains romans de Steinbeck. Il y a aussi là-dedans une noirceur, mais en même temps avec aussi beaucoup de rire et d'ironie. Et est-ce que ça peut être des auteurs américains que vous appréciez ou,
Faulkner, c'est un génie, ça. Et Thompson, vous citez des auteurs qui parlent du sud des États-Unis, oui. Et Thompson en est un. Et il le décrivait dans ce roman-là. Il y en a d'autres où seul le tragique prédomine. Mais là, il y avait une sorte de verve, de cocasserie. Je trouvais formidable de mêler ça à tout un climat criminel, à des meurtres. Il y a des séquences avec des dialogues irrésistibles. Et Thompson a toujours dit que les auteurs qui l'avaient le plus qui l'avaient vraiment influencé, c'était Karl Marx et Cervantes. Et dans Cervantes, il y a des passages de comiques, il y a des passages de cocasserie. Et là-dedans, dans le roman de Thompson, il y a toutes ces scènes que j'ai préservées. Tout le dialogue, quand le personnage de Noiret explique qu'il est le Christ, je crois que ça provient mot pour mot du livre de Thompson.
Et alors moi, il y a autre chose qui m'a frappé en revoyant le film, parce que je l'avais vu il y a longtemps. Ce que j'ai trouvé vraiment génial au niveau de l'humour, c'est aussi à chaque fois qu'il va donner la mort, c'est tout le temps un moment où les dialogues sont vraiment extra et super drôles. Quoi. Oui. Et ça, c'était vraiment voulu aussi.
Ah, c'est complètement voulu qu'il y ait ça. Et maman, il explique toujours que finalement, c'est presque un cadeau qu'il fait, en gros.
Jamais personnel en fait.
Oui, c'est jamais. Non, il déteste pas les gens. Il dit c'est toujours ceux qu'on aime qu'on tue. Et donc, ce sera une consolation pour toi. Hein, que ça soit. C'est une consolation qu'on pourrait bien se passer. Mais ça fait partie de l'esprit que je trouve très très décapant de Thompson, que je voulais préserver. Et aux États-Unis, ces séquences, elles ont du mal à passer, hein. Parce que le personnage, il abat un noir de sang-froid, et il est censé être le héros. Et il explique que c'est un noir qui a léché le cul des blancs, donc il est pire que les blancs, donc il doit être abattu et tout. Vous voyez, par rapport à un libéral américain, c'est terrible ça. Parce que, comment dire, on ne lui donne pas de planche de salut. Il n'y a pas d'explication où le type arrive à se retrouver là-dedans. Et c'est ce que je trouve génial avec Thompson. C'est quelqu'un qui sait rentrer sous la peau et toucher tous les nerfs sensibles. Mais il le fait et en même temps, il montre exactement tout ce qui peut provoquer l'horreur, l'humiliation, le désespoir. Et en même temps, il le fait en s'amusant et en étant par moments hilarant. Ça, c'est une combinaison incroyable, ça.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un personnage un peu lâche, mou, qui a plutôt envie de paraisser comme le personnage de Noiret, se mette d'un coup à devenir comme ça?
Il y a un moment, il n'en peut plus. Il n'en peut plus.
C'est vraiment
le
lien avec Marchand.
Il n'en peut plus. Il y a un moment, c'est presque Marchand qui lui donne l'idée. Il lui dit, tu devrais liquider ces gens-là. Tu devrais y aller. Et lui va utiliser cette phrase en disant « c'est toi qui m'as donné l'idée ». C'est toi, moi j'ai fait que suivre ton ordre.
Et c'est à ce moment-là qu'on comprend toute l'intelligence du personnage, quand il roule marchand.
Mais Thomson dit que l'un des plus beaux thèmes du monde, c'est l'histoire d'un type que tout le monde prend pour un imbécile et qui est en fait plus intelligent qu'eux. Et que les gens sont beaucoup plus stupides que cette personne qui méprise. Il dit ça, c'est un vrai thème. Et c'est un thème qui est universel et qui touche tous les gens. C'est un film, Coup de torchon, qui avait énormément plu à Jean Genet. Jean Genet qui disait, c'est le film qui a l'un des plus beaux sujets du monde, c'est comment on devient un martyr à travers l'abjection. Et oui, c'est ça, il y a de ça, oui. Et en effet, le personnage est beaucoup plus intelligent que tous ces gens qui s'estiment très supérieurs à lui, qui le prennent pour un connard. Qui le jugent de haut et qui sont en fait beaucoup plus stupides. Je ne sais plus qui a dit qu'il n'y a pas de plus grand délice que de se faire traiter d'idiot par un imbécile. Hein? Il n'y a pas de plaisir plus voluptueux. C'est un petit peu le thème. Hein? C'est ça, ce sont les macros, c'est Marchand qui est, le personnage que je fais, le joue Marchand qui est abject de racisme, de stupidité profonde, et qui a une tellement haute opinion de lui que tout d'un coup, il va, sans s'en rendre compte, il va déclencher un mécanisme qui va se retourner contre lui. Et je trouve ça formidable. Il y a un auteur que j'adore, qui s'appelle Odon von Horváth, qui est un dramaturge viennois, qui a écrit que rien ne nous fait plus nous donne plus le sentiment de l'infini que la bêtise. Et ça, c'est vrai. Quand vous avez un personnage comme Marchand, comme Eddie Mitchell dans le film, ils atteignent à une sorte de bêtise apocalyptique, quoi. C'est une bêtise. Et leur bêtise va avoir des répercussions absolument terrifiantes.
Et alors, politiquement, c'était important aussi, justement, de montrer un peu cette bêtise des Blancs, notamment à l'entre-deux-guerres, un peu vers la fin de la colonisation, quoi.
Bah, ils sont, je voulais montrer dans le toile de fond que, en tous les cas, ils sont étrangers à tout ce qui est africain. Il n'y en a pas un. Et je vous dis, je voulais montrer une Afrique sans pittoresque. C'est une Afrique où on ne voit que des chèvres, des chiens, des poules, que des animaux domestiques. Et alors sur l'affiche, je ne sais pas s'il y a l'affiche quelque part du film, le distributeur a dû penser que ce n'était pas du tout suffisant, et ils avaient fait rajouter sur l'affiche, à côté d'une rivière, des éléphants. Il y a 5 petits éléphants sur mon affiche, alors qu'on avait pris un soin énorme avec l'équipe de
parce
ne
que
jamais... l'affiche,
ce n'est pas un noiret qui est en train de caresser...
Mais oui, et derrière, au fond, il y a des éléphants avec un fort français, avec le drapeau français, que des images qui ne sont absolument pas... Parce que pour eux, c'était ça, l'Afrique coloniale. Et moi, j'ai montré une Afrique beaucoup plus originale que ça. J'ai pas montré, justement, d'éléphants, de bêtes sauvages et tout. Et eux, ils me les ont ramenés dans l'affiche. Et en Amérique, où ils avaient retiré la main d'Isabelle Huppert, la main de Noiret entre les cuisses d'Isabelle Huppert, ils avaient trouvé que c'était un peu olé olé. Là, qu'il aille comme ça si haut dans les cuisses d'Isabelle Huppert. Donc sa main, en Photoshop, la main était revenue ailleurs. Ils avaient rajouté des guerriers avec des boucliers et des sagaies qu'on ne voit jamais dans le film. C'est pas du tout... Ils sont tous en boubou. Tous en boubou dans le film. Ils sont tous ou habillés en tirailleurs ou en boubou. Et les Américains, ils ne pensent que l'Afrique qu'en termes que comme dans les mines du roi Salomon, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est...
Même la manière dont vous filmez un peu la ville, tout ça, il n'y a pas de cliché, quoi. On est vous filmez les toilettes, des fois, les vieilles cours, c'est vraiment l'humain aussi là-dedans qui est important, quoi.
C'est une réalité qui était déconcertante pour les. Je trouve que ça dit beaucoup, ça, la façon. Ça cassait des clichés, un nombre considérable de clichés, et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on casse les clichés.
Alors, au niveau du casting, du coup, c'était Noiret absolument.
Noiret, tout le temps, ça a été écrit pour Noiret. Ça a été écrit Noiret et Marielle, ça je voulais. Je voulais Marielle dans le double rôle. On a trouvé le double rôle en écrivant. C'était pas dans le roman. On s'est dit, tiens, c'est pas mal qu'il joue les deux rôles. Qui joue le frère qui revient et tout ça et tout. Et je voulais Guy Marchand, ça c'est certain. Et je voulais Gérard Hernandez aussi, l'autre Mac. Isabelle, elle a mis du temps à accepter. On l'avait écrit pour elle. Elle a mis beaucoup, beaucoup de temps. Au point, à un moment, j'étais découragé. J'ai dit, je vais demander à Nathalie Baye. Et à ce moment-là, Isabelle est revenue. Et Stéphane Audran aussi, c'était écrit pour elle. J'avais pensé à Stéphane. Donc toute la distribution, je l'ai faite très très rapidement.
Et Eddie Mitchell, du coup.
Eddie Mitchell, tout de suite, j'y ai pensé tout de suite.
Parce que ça fonctionne super aussi.
Ah oui,
ça.
Oui, mais il est génial dans le film. Il est génial, Eddie. Et d'ailleurs, c'était marrant quand on tournait. On répétait Stéphane Audran. Au début, elle me foutait une trouille terrible parce qu'elle disait jamais le texte. Elle commentait tout le temps l'action. Alors quand on fait le plan où on rentre dans la chambre et il y a Eddie Mitchell qui dit il y a un papillon, j'ai été attaqué par un papillon de nuit venimeux. Il dit, hein, oui. Et Stéphane qui devait dire une phrase, elle se tourne vers moi et elle dit t'as eu une idée de génie en le prenant. Elle me fait, au lieu de dire, elle ne dit pas son texte, et Yann Warret qui dit, Stéphane, elle dit, oh pardon, je ne l'avais pas. Elle disait, elle commentait le truc des autres acteurs. C'était formidable. C'était sa manière de se concentrer. Elle se concentrait en foutant la trouille à toute l'équipe. Au bout d'un moment, j'ai dit, je dis moteur, et là, on s'est aperçu qu'elle savait le texte au rasoir.
Alors il y a une scène aussi qui fonctionne bien, qui fait presque penser à un vaudeville, c'est que c'est quand justement Eddie Mitchell, il les voit qui s'embrassent, Rose oui. et Cordy, et du coup, là, comment vous l'avez travaillé cette scène? Parce qu'on a vraiment l'impression que pendant 5 minutes, c'est presque du théâtre, quoi, il y a quelque chose qui est...
Quand
le moment où Eddie Mitchell les surprend en train de s'embrasser, oui. Et qu'il en parle du coup à la femme et qu'ils sont oui. dans un quatuor comme ça.
Oui, oui. Bah, là, il y a presque un ressort de vaudeville, là, de trucs comme ça. Ça devait être fait. Il fallait que... ça a été une scène qui était difficile à qui a été pas difficile à tourner. Elle a été un moment problématique parce qu'il fallait bien trouver ce qui pouvait voir, il fallait pas trop que la porte soit ouverte pour pas qu'on ait l'impression qu'il soit complètement inconscient. Donc il se cache un peu. C'est toujours le problème. Il faut qu'il se cache, mais pas suffisamment pour ne pas être vu. Et surtout ce jour-là, je pense qu'Eddie avait un peu abusé de Jeannot le marcheur, la Johnny Walker. Là. Et là, il a eu du mal à dire le texte, si bien que j'ai retourné le lendemain. J'ai fait un retake de ce truc où il était beaucoup plus calme. Mais ce n'était pas tellement dur parce que Noiret était très convaincant et Isabelle était formidable quand elle jouait les vierges effarouchées. Elle disait « Comment tu peux penser à ça, toi ?» Et l'autre, et du coup, j'avais dit à Stéphane, il faut que tu le gifles tout le temps. Elle passe son temps à le gifler. Et chaque fois à tort. Chaque fois, c'est lui qui a raison. Et chaque fois, il reçoit une baffe.
Alors, Cordy, il est sensible aussi il est vachement sensible aux éléments, je trouve, en fait, pendant le film, quand il y a les tempêtes de sable ou les éclipses. Il y a aussi vachement quelque chose comme ça au niveau du soleil, de la nuit. Oui. Ça, c'était important pour vous, ces éléments
je voulais qu'il y ait ce côté un peu presque cosmique, un métaphysique chez lui. C'est un homme qui respire avec l'Afrique, qui est là, qui n'a pas sans doute passé son temps à dire que la situation était effrayante, que la famine, etc., qui n'a jamais dû être écoutée par des supérieurs qui s'en foutent, et qui donc, à un moment... Mais autant les gens qui sont au-dessus de lui sont des gens qui vivent dans des ministères et qui ne connaissent rien, autant lui, il s'y connaît. Il sait ce que c'est que
le terrain.
Que le terrain. Et il le respire. Et à un moment, c'est tous ces éléments... Ce rapport avec la nature, avec les astres, qui fait que tout explose. Tout explose. et que lui-même pète les plombs. Ce qui est marrant, je vais vous dire, j'ai retrouvé, alors en dramatique, j'ai retrouvé un peu de cette atmosphère de cette Afrique dans, je ne l'avais jamais lu, mais dans l'extraordinaire roman de Romain Gary qui s'appelle Les Racines du Ciel, où il y a un côté comme ça d'un être qui se bat pour les éléphants, mais qui en proie à la nature, qui vit à côté des bêtes, qui dort avec les bêtes, et qui finit par presque faire, dans sa folie, qui fait presque exploser le monde comme ça. Et Gary a senti quelque chose de formidable. Il le fait de manière dramatique. Il y a deux, trois moments de comédie, mais c'est plutôt dramatique. Mais il y a quelque chose de très, très fort, de très fort dedans. Et j'y ai vu une étrange parenté avec Coup de torchon dans le livre de Gary. Et je ne l'avais pas lu à l'époque. Je l'ai lu là maintenant. C'est un roman hyper prémonitoire. C'est un roman qui parle en 56, donc non seulement de la défense de la nature, de la défense de la faune, du fait qu'il faut protéger ou nous allons tous crever si on ne protège pas les animaux, mais c'est un livre qui dénonce la montée du nationalisme et de l'islamisme en 56. Donc c'est assez formidable, ça.
Oui. Et alors, du coup, pour passer un petit peu à Quai d'Orsay, comment vous est venue un peu l'idée d'adapter cette bande dessinée de Blin ?
L'idée, elle est venue en la lisant. Hein. C'est immédiatement à la lecture, de la même façon que le livre de Jim Thompson. Pendant que je le lis, je me dis, je veux adapter ça. Et là, c'était pareil pour la bande dessinée. Pareil. J'avais envie d'en tirer un film.
D'accord. Alors moi, je vais avoir la chance de le voir dans quelques minutes. On ne va pas pouvoir trop en parler parce que je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Juste pour finir, moi, j'avais une petite question parce que nous, avec Radio Brume, c'est vrai qu'on a beaucoup suivi le festival Lumière cette année. Et est-ce que c'était un grand moment, ce festival?
Ça a été un grand moment, comme tous les festivals qui ont précédé, qui ont été des moments absolument sublimes. Et celui-là, Tarantino lui a donné un truc spécial, mais déjà Clint Eastwood ou Milos Forman avaient été assez énorme, et aussi Gérard Depardieu aussi avait été formidable. C'était quelque chose de très 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 émouvant, épatant, de voir des salles pleines en train de, amené par Tarantino, en train de découvrir des films français inconnus de 1939 en noir et blanc, et applaudir le film à la fin. Donc il y a eu quelque chose, la fréquentation a été incroyable, les retours ont été magnifiques. Là, il y a un buzz sur le net inouï à cause de tout ce qui s'est passé, et c'est quand même réconfortant de voir que toutes les batailles qu'on a menées avec Thierry Frémaux pour imposer cette idée d'un festival du patrimoine, hein, et Dieu sait qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pendant des années. Vous voulez recréer les ciné-clubs, ah, c'est complètement démodé, c'est dépassé, comment vous voulez intéresser les gens, aussi bien au ministère de la Culture que dans les précédentes personnes à la mairie de Lyon. Mais surtout au ministère de la Culture. On entendait continuellement des gens nous dire qu'est-ce que c'est que ce truc ringard. À la limite, Ciné-Club était devenu une injure dans la bouche des gens. Hein. C'était devenu une injure. Le sort d'exemple d'un passéisme qui s'acharnait à penser qu'il fallait continuer à montrer parfois de temps en temps des films en noir et blanc, et l'idée est qu'il fallait aussi défendre que le cinéma n'avait pas été inventé par Martin Scorsese et Tarantino en 1990, quoi, je veux dire. Le premier film de l'histoire du cinéma n'était pas Raging Bull ou New York, mais qu'il y avait eu quelques films avant. Résultat, on s'aperçoit que le public, il est prêt à accepter ça, et qu'il est prêt à aller voir un film d'Hitchcock muet, hein, qu'il est prêt d'aller voir des films de Verneuil. On faisait ça le comble sur des films de Verneuil en noir et blanc, hein, et dont certains sont formidables. Des gens sans importance est un film formidable, hein, un film qui commence... Hein, une des premières phrases du flashback de la voix off, c'est de dire « Nous roulions depuis 36 heures. » tout d'un coup vous dites, allez mais, ils travaillaient 36 heures, les routiers là, ça vous dit France 1952? Tout d'un coup, c'est une phrase, vous la prenez en pleine gueule, ça, cette phrase. Et ils ne sont pas arrivés. Vous voyez qu'ils ont encore 12 heures de route devant eux, comme ça. Nous roulions depuis 36 heures. Donc, tout d'un coup, le monde du travail, et vous dites, tiens, c'est marrant, le monde du travail, dans les années 60-70, il a été un peu évacué par le cinéma français. Et ces gens-là, méprisés, Verneuil, ça, ils en parlaient du monde du travail. Il parlait de ça. Et moi, j'avais dit dans la présentation, c'est marrant, hein, il y a un moment, le cinéma français a fait au monde du travail ce qu'a fait le Parti Socialiste. Il l'a évacué. Ils l'ont évacué. Ils ont décidé qu'il ne fallait plus parler des ouvriers, qu'il fallait mieux créer SOS Racisme. Ça évitait de s'intéresser à l'industrie, aux problèmes des syndicats, etc. Et ces cinéastes, comme ça, des artisans, des gens... Eh bien, il le faisait exister, ce monde, le monde du travail, dans ce film-là. Il y a un ou deux films de Verneuil qui sont là-dessus tout à fait épatants, tout à fait bien, et avec des acteurs souvent formidables. Gabin dans Le Président, hein, Gabin et Belmondo dans Un singe en hiver, c'est pas rien. Hein. Gabin dans Le Président, en train de dire « je suis pour l'Europe du travail contre l'Europe du capital », bah, ça fait plaisir d'entendre ça.
Aujourd'hui.
Ça fait plaisir d'entendre ça maintenant. Hein. Et quand on lui dit, mais monsieur le président, il y a quand même des patrons de gauche. Il y a aussi des patrons de gauche. Il dit, il y a aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité de l'espèce. C'est formidable.
Et c'est important pour vous, notamment dans la région, que les festivals, bah, comme drôle d'endroit pour des rencontres.
C'est important, c'est très très important qu'on continue à faire vivre les films qui ne sont pas uniquement des films du présent ou les films de la grande consommation, qu'on fasse vivre d'autres types de cinéma et aussi du cinéma qui revient aussi sur du cinéma de justement à la fois du patrimoine ou de genres différents. C'est le même combat. C'est d'un côté préserver la mémoire et de l'autre préserver la curiosité. Et les deux vont ensemble. Quand vous avez généralement de la curiosité, vous avez de la mémoire. Voilà. Et c'est important, je vous dis, de ne pas penser que le cinéma se résume à Spider-Man numéro 76, hein, ou quelles que soient les qualités parfois de ces blockbusters, il y en a un ou deux qui sont, paraît-il, pas mal.
D'accord. Alors voilà. Juste pour finir, au niveau des cinéastes ou des écrivains, on va dire français actuels, il y a des gens comme ça qui vous ont tapé dans l'œil ces dernières années,
une
nouvelle génération.
Bah beaucoup. Il y a des auteurs de théâtre, il y a des types comme Philippe Ken ou Marie Raymond. Vous avez aussi des cinéastes qui ont petit à petit explosé, des gens comme Dupontel. C'est très très bien. Il y a beaucoup de réalisatrices femmes aussi. Là, Isabelle Ksavska, je ne sais jamais comment prononcer son mot, celle qui a fait D'amour et d'eau fraîche avec Agnès de Moustier et tout, l'auteur. Il y a un certain nombre de réalisatrices femmes, je trouve très très intéressantes. Oui, Emmanuel Berco aussi, c'est vachement bien. Emmanuel Berco, il y a pas mal de gens qui sont intéressants.
D'accord, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas.
Voilà.